Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je voudrais situer notre rendez-vous ce matin, notre méditation. Alors, ça sera une simple phrase dans le livre des Proverbes, chapitre 23, et notre réflexion portera sur notre engagement chrétien. Vous savez que le jour où nous avons confessé Jésus, nous avons fait profession de foi, le jour de notre baptême adulte, eh bien, vous avez répondu, c'est une formule, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tous les cas, elle a quand même son sens pour nos vies à chacun. Voilà, vous engagez-vous à suivre Jésus-Christ, à l'aimer, à lui obéir, à le servir tous les jours de votre vie. J'ai toujours entendu des oui, jamais des non. Et je crois que ça, c'était pas le fait d'un jour, c'était pas le fait d'un moment, mais c'est le fait de toujours. Nous nous sommes engagés à aimer Jésus, à le suivre, à lui obéir tous les jours de notre vie. Écoutez bien, Proverbes chapitre 23, verset 26, simplement une phrase, simplement une ligne. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors ça va dans les deux genres, hein. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alors voilà pour simplement cette piste de réflexion. Nous allons partir sur ces quelques mots. Et de vous rappeler, si vous me le permettez, que le cœur, notre cœur, est le siège de nos choix. Oui. Ce n'est pas l'extérieur qui doit nous influencer, ce n'est pas toutes sortes de circonstances qui viennent quelquefois, qui interviennent dans notre vie, mais c'est notre cœur, c'est là à l'intérieur de nous-mêmes en quelque sorte. Et le cœur, c'est avant tout, et je le rappelle parce que ça c'est un lieu commun, c'est le siège de notre volonté, je veux. C'est le siège de notre décision aussi, j'ai choisi. De notre détermination, j'irai jusqu'au bout. De notre préférence. En quelque sorte, parce qu'il y a là toute une palette innombrable dans notre existence, où nous avons, là, toutes sortes de choses qui se présentent autour de nous. Alors, je réduirai un petit peu les choses. Préférence pour Dieu. Préférence pour les hommes. Peut-être suivant la voie de cette humanité. Préférence pour soi. Ça, c'est l'ego, naturellement. Ou préférence pour toutes les choses indifférentes de la vie, c'est-à-dire les choses qui peuvent être comprises dans ce que nous pouvons appeler les passions légitimes, licites, et les passions illégitimes, illicites. Et vous savez que quand Jésus nous parle de servir, de consécration, d'engagement, il nous donne à plusieurs égards des enseignements à travers des paraboles, à travers des paroles qu'il a enseignées, enseignement qu'il a donné à ses disciples. Et puis il y a une chose qui apparaît, c'est que tout service est synonyme de sacrifice. Voilà. Alors les sacrifices, on en fait dans notre vie. Et indépendamment de la foi, indépendamment de toutes sortes d'engagements que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de l'Église ou toutes sortes de choses. Mais le sacrifice, il y en a un qui est particulier et dont nous touchons le point ultime. C'est celui que Dieu nous enseigne à travers l'exemple de Jésus-Christ. Sacrifice. Et celui-ci, il a été un sacrifice sanglant. Un sacrifice qui a coûté la vie à quelqu'un, qui a coûté la vie à un homme, ou Dieu homme, ou Dieu, ou tout simplement l'homme-Dieu. Et Jésus nous enseignera à plusieurs égards ce que c'est que le renoncement à soi-même. Il y a des belles images dans l'histoire biblique, je pense à Abraham, je pense à David aussi, et il y en a d'autres, ils sont innombrables. Ce n'est que pour citer quelques noms, mais Jésus nous enseigne ce que c'est que renoncer à soi-même. Et les textes de l'Évangile, les textes évangéliques nous parlent même de la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est synonyme de mourir, mais ça ne s'arrête pas là, c'est mourir pour renaître. Comme nous l'avons entendu à travers la prophétie ce matin, qu'à travers, finalement, il y a des franchissements de certaines barrières, de certaines limites, de certaines choses qui nous sont difficiles parce que souvent nous sommes étreints de peur et de questionnement, de perplexité, et on se dit « je n'irai pas plus loin, je ne me sens pas capable d'aller plus loin ». Et le Seigneur nous dit « mais tu ne vas pas y aller tout seul, je suis avec toi, et même je te précède ». Et ça c'est aussi, une des, on pourrait dire, explication de ce qu'est le renoncement, le sacrifice et la croix, tout simplement. Alors, pour nourrir un peu notre réflexion, j'aimerais simplement présenter trois objets de méditation ce matin, et nous allons aborder le premier à travers un texte que nous allons lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 9 et verset 57. Et là, nous allons découvrir quelque chose de particulier dans cette parole qui nous est adressée. C'est une rencontre entre Jésus et des hommes. Et il va y avoir en quelque sorte des pourparlers, il va y avoir des affirmations, il va y avoir des promesses, des engagements. Et nous allons voir ce que vaut les engagements, ce que c'est que la consécration et quelle est sa nature. Et nous allons justement voir à travers ces quelques mots ce que c'est que le vouloir sans le savoir et sans le pouvoir. Alors je m'explique, je vais m'expliquer, j'y reviendrai. Alors on va lire ce texte. « Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus, ses disciples, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre, il dit à un autre, Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, ou leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous nous apercevons qu'à travers ces trois exemples de rencontres de ces hommes, qui viennent vers Jésus, où deux vont l'interpeller et le troisième, c'est Jésus qui va l'interpeller, il y a le vouloir. Il y a là quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que ces gens sont dans de bonnes dispositions pour suivre Jésus, pour aller après lui tout simplement, pour l'accompagner et vivre ce qu'il y a à vivre dans la compagnie finalement de Jésus. Mais je résume cela, je l'ai dit, c'est le vouloir sans savoir où ils vont, ce qu'ils feront et ce qu'ils deviendront, et quand même, aussi on peut l'ajouter, sans le savoir et sans le pouvoir. Parce que si on part, comme ces hommes prétendaient partir, en pensant qu'ils étaient capables de tout, alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir certainement des écueils sur la route. Et c'est pourquoi nous pouvons détailler en quelque sorte, et très rapidement, ce que comporte c'est pour parler ou tout simplement ces déclarations de profession de foi, ces déclarations de suivre Jésus. Vous savez, quand c'est l'homme qui décide, quand nous décidons, quelquefois avec un mobile émotionnel, parce que nous avons dans nos églises et dans nos cultes, dans nos réunions de prière, et même en annonçant l'évangile, quelquefois des courants d'émotion, ça fait partie de l'humanité. On ne peut pas se départir de l'émotion, autrement on ne serait pas des hommes. Mais il y a quelquefois que l'émotion. Et l'émotion n'est pas forcément un terrain solide. Parce que vous savez très bien que c'est versatile, l'émotion. Aujourd'hui, nous pouvons rire, demain, nous pouvons pleurer, nous pouvons être attristés, nous pouvons être contrariés, nous pouvons être déçus, nous pouvons vivre toutes sortes de choses qui sont tellement comme à l'image du sable mouvant, lorsque l'on veut marcher ou lorsqu'on veut courir sur un sable mouvant, c'est instable. L'émotion, c'est ça, en quelque sorte. Et quand c'est l'homme qui décide de suivre Jésus, avec des exigences et des conditions, et nous allons le voir dans ces trois propositions. Voilà, le premier s'approche, et il fait cette proclamation martiale, on pourrait dire, « Je te suivrai partout où tu iras ». Voilà, ça c'est quelque chose qui peut nous séduire, parce qu'on se dit, « Ben, moi j'ai rencontré Jésus un jour, et partout où il ira, eh bien moi j'irai, tout simplement. » Mais est-ce que vraiment nous pesons l'importance de ce que cela peut comporter d'aller où Jésus va? Et Jésus va lui dire, non pas pour le dissuader, mais il va lui dire tout simplement ceci, « Mais tu sais, il faut que tu saches une chose, c'est que les renards, eux, vous savez ces petits animaux-là des champs, eh bien ils ont des tanières et les oiseaux ont des nids dans le ciel, les oiseaux du ciel ont des nids, pardon. Mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. » Et le problème consiste que suivre Jésus comporte une obéissance, c'est vrai, mais également un sacrifice de nous-mêmes. Et si les oiseaux du ciel ont des nids, si les renards ont des tanières, c'est-à-dire ce qui peut évoquer peut-être une certaine protection, un certain confort, en tous les cas que quelque part, il est dans certaines circonstances, dans l'appel de Dieu, que là, eh bien, parfois nous devons renoncer à nous-mêmes et renoncer à notre vie, peut-être notre confort, notre bien-être. Moi, je suis toujours admiratif, je n'aurais pas pu le faire, mais je suis toujours admiratif que nous avons des missionnaires qui vont dans le monde entier et dans des terrains extrêmement dangereux, difficiles, et qui, avec, j'allais dire, avec armes et bagages, mais avec tout simplement bagages et famille, ou famille et bagages, partent avec leurs enfants, et là vont passer des années à prêcher l'Évangile. On peut dire que les conditions, quand vous allez dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie, moi j'aime pas les moustiques, c'est terrible. Alors ça me dissuaderait tout de suite, et toutes sortes de choses. Mais bon, chacun a quelque chose, c'est vrai. Et Jésus veut dire à cet homme, « Mais tu sais, tu veux me suivre, c'est bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. » Mais sache que ton petit confort et que tes petites exigences et ta petite personne, eh bien, il faudra que tu consentes quelque part, là, à faire des concessions dans tout cela. Parce que si vraiment tu veux me servir, le service de Dieu n'est pas toujours simple et facile. C'est vrai. Il y a un renoncement, un sacrifice. C'est pourquoi Jésus lui dit ces choses. Mais tu sais, le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. Et de fait, quand on suit Jésus dans son ministère pendant 3 années, on voit qu'il allait de lieu en lieu, de maison en maison, et avec une vie très difficile. Mais ce ne l'a pas empêché d'accomplir parfaitement et totalement sa mission. Voilà pour le premier. Le premier, c'est lui qui propose, et il fait une déclaration, « J'irai partout où tu iras. » À réfléchir. Et puis voilà un second qui va apparaître. Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Là, c'est un impératif. C'est pas l'homme qui demande, c'est Jésus qui demande à cet homme. « Maintenant, eh bien tu vas être mon disciple, tu vas me suivre. C'est pas de marcher devant moi, mais marcher derrière moi et partout où j'irai, tu iras. Et parce que j'ai un projet pour toi, parce que j'ai un plan pour toi. » Alors cet homme va répondre aussitôt à cet appel tout simple, deux mots, suis-moi. « Mais Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père, permets-moi d'abord de remplir mes obligations légitimes. » Alors, que son père soit moribond, je comprends que, et devant mourir dans quelques instants ou quelques jours, je comprends que Jésus ne lui aurait pas refusé. Mais peut-être est-ce un prétexte, une excuse, pour dire c'est vrai, j'irai bien Seigneur, mais tu sais, moi je suis très attaché à ma famille, ce qui est tout à fait normal et Dieu n'est pas contre. Je suis très attaché à mon père, et permets-moi peut-être que lorsqu'il viendra à mourir, peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous savez, c'est toujours le repousser au plus loin possible, et que Dieu fasse vivre ce père, naturellement, mais l'homme qui est appelé n'est pas prêt de partir à ce moment-là. Parce que si nous repoussons toujours, de temps en temps, eh bien, finalement, nous resterons tout le temps dans notre position. Et c'est un peu le sujet. Et Jésus va lui dire, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. Il y a un ancien président de la République qui a commenté, il y a quelques années, il y a plusieurs années, qui commentait justement ce texte de l'Évangile, bien que c'était pas un prédicateur, mais toujours est-il qu'il commentait « Laisse les morts ensevelir les morts ». Il avait sa vision des choses. Mais vous savez, pour nous, une chose que nous pouvons expliquer à travers ce texte, c'est que les gens qui ne sont pas sauvés, et les gens qui sont finalement, et bien sans la connaissance de Jésus, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si on doit attendre que ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont là, eh bien, sans cette connaissance de Dieu, finissent avec la vie et avec leurs affaires, on n'est pas sorti. Mais nous, pour nous, nous ne sommes pas des morts. Nous sommes vivants moralement et vivants spirituellement, et quand Dieu nous appelle, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sans tarder et de pouvoir partir. C'est l'explication, je passe très vite. Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Là, c'est une chose extraordinaire, parce que c'est un texte rare dans l'Évangile, où nous voyons Jésus qui va adresser un appel solennel à quelqu'un pour remplir ce que nous appelons, nous, un ministère don. Va annoncer l'Évangile, va annoncer le royaume de Dieu. Ça fait partie des 5 ministères que nous avons dans Éphésiens, où il est question, finalement, et entre autres ici, de l'évangéliste. Va annoncer le royaume de Dieu. C'est un appel. Et c'est Jésus qui appelle. parce qu'on n'a pas à s'appeler soi-même. C'est ça la grande différence. Et puis le troisième, eh bien, c'est autre chose. Un autre s'approche de Jésus et lui dit « Je te suivrai ». À la différence du premier, il n'y pas partout. Vous avez remarqué, il y a des petites subtilités quand vous lisez la Bible. Hein. « Seigneur, je te suivrai ». Trois petits points. Vous comprenez, hein? C'est quelque chose, hein? Je te suivrai, si ça me chante. Je te suivrai, si c'est pas trop difficile. Je te suivrai, si j'en ai le temps. Je te suivrai, et voilà, ce que nous pouvons y mettre derrière. Mais permets-moi d'abord de prendre congé de sa maison. C'est un petit peu la même excuse et le même prétexte que le deuxième, mais, le deuxième pouvait avoir une solennité. Celui-ci concerne plutôt ses affaires, sa maison, son argent, tout ce qui le préoccupe et tout ce qui fait finalement, eh bien là, l'intérêt de sa vie, sa maison et ses affaires. Quand il s'agit d'une personne comme le père qui peut-être va décéder, ça, on comprend qu'il y a là un côté beaucoup plus humain dans cela. Mais là, ce sont les affaires. Mais vous savez, nous vivons dans un temps aujourd'hui, et particulièrement dans notre monde, où il y a une grande place avant Dieu qui est donnée à nos affaires. C'est comme les conviés aux noces. Vous savez, il y a deux paraboles, une dans Matthieu, une dans Luc, où le roi fait des noces pour son fils et il va inviter là tous ceux qu'il rencontre. Et les serviteurs, ces ambassadeurs en quelque sorte, qui vont de maison en maison pour dire, eh bien le roi fait la fête et c'est pour vous qu'il fait la fête. Et les uns de s'excuser, hein, moi je viens d'acheter là des bœufs, je viens d'acheter un terrain, je viens d'acheter un champ, l'autre dit, je viens de me marier, je peux retourner au mariage, hein, c'est terminé, bon, on fait une fois, hein. Toutes sortes de choses comme ça, vous comprenez? Les affaires, nos préoccupations, nos intérêts, voilà. Et aujourd'hui, si quelquefois il y a un essoufflement dans nos églises, dans notre propre vie, c'est que je me demande si quelquefois le Seigneur reste le premier. Et pourtant, Jésus nous réconforte quand il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ça comprend tout le reste, c'est-à-dire même nos affaires, notre vie, parce que on sait très bien qu'il faut travailler, il faut avoir une vie sociale. Ouais, c'est pas défendu, au contraire, c'est même recommandé. Mais une chose qui est certaine, c'est que voyez un petit peu les prétextes, voyez les excuses. Mais oui, mais moi, il faut d'abord que j'aille prendre congé de ceux de ma maison, que je range, que je mette en ordre avant de partir. On sent que cet homme, quand il répond à Jésus, il veut bien aller vers Jésus, il veut bien suivre Jésus, mais selon ses exigences et ses conditions, et en pensant que quelque part, il a des regrets, quelque part, oui. Ça l'ennuie, et c'est peut-être tous les cas de figure que nous pouvons rencontrer dans l'appel que Dieu nous dit. Alors Jésus lui répondit, quiconque, ou leur répondit, hein, si on peut faire une réponse générale, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Moi, j'ai jamais été cultivateur, mais j'ai vu des cultivateurs et des laboureurs. Ah, aujourd'hui, maintenant, ça se fait d'une manière industrielle, et attention, à grande échelle, hein. Il y a tout le matériel et tout ça, mais on a toujours ce cliché, c'est une image bucolique, hein, la campagne, que dans le temps, hein, les gravures que nous avons pu voir, il y avait l'homme avec son animal, et puis, voilà, il avait un socle, hein, il y avait pour mettre les mains dessus, et puis, c'est un travail pénible, c'était un travail harassant, on le voit encore dans certains pays, hein, dans le monde, hein, c'est encore très fréquent, bien sûr. Et Jésus va faire cette réflexion parce que il s'adressait à un peuple, Israël, qui était aussi des laboureurs, des semeurs, des cultivateurs. Et il dira ceci, et ça c'est pour nous, pour tous les temps, quiconque met la main à la charrue, voilà, l'objet pour travailler la terre, et qu'il regarde en arrière, Jésus dira d'une manière catégorique, il dira, mais il n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est pas possible. Parce que finalement, celui qui regarde finalement derrière, vous savez ce que ça va être, les sillons qu'il va tracer? Ils vont être comme ça, ils vont être en zigzag. Il faut regarder devant. Et aujourd'hui, moi je vous interpelle pour que vous puissiez regarder devant. Et on n'oubliera jamais notre vie, on n'oubliera jamais nos souvenirs, on n'oubliera jamais notre passé. Mais le Seigneur nous appelle solennellement à regarder devant. Et lui, il est devant, puisqu'il est question de le suivre. Suis-moi. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'il y a tellement de diversions, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui, au-dessus de nous et sur nos côtés, devant et derrière, qui sont là pour nous donner, alors qu'on a mis la main à la charrue, qu'on s'est engagé, ne serait-ce que déjà en premier lieu par les eaux du baptême, et que là, eh bien, on commence à regarder de tous les côtés. Jésus nous dit, vous regardez devant, parce qu'autrement, votre vie, elle va être en zigzag, elle va être remplie de méandres et toutes sortes de choses, et c'est pas comme ça qu'on cultive un champ. C'est pas comme ça qu'on peut porter des fruits. C'est pas comme ça qu'on peut avoir des récoltes et des moissons. Ce n'est pas possible. Donc voilà cette première application, donc vouloir sans savoir et dont on n'a pas le vouloir. Donc l'obéissance. L'obéissance à Dieu, écoutez bien, je vais la décliner sous quatre formes. L'obéissance au Seigneur, c'est une obéissance sans réserve. C'est une obéissance sans regret. C'est une obéissance sans retour. Et c'est une obéissance sans retard. Vous en souviendrez de ça? Oui? Oui, bon, enfin, je pouvais toujours vous le rappeler, hein. Quoi qu'il en soit, hein. Parce que vous savez, mon fils, donne-moi ton cœur, nous dit Dieu. Oui, donne-moi ton cœur. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de donner. Ouais. Plusieurs façons de donner, en gardant, tout en ayant l'apparence de donner, en reprenant ce que l'on a donné, en retenant, c'est-à-dire avec quelquefois une contrainte et sans joie, sans gaieté de cœur, ou tout simplement en refusant. C'est une forme finalement dans tout cela. Et c'est ce que suggère Jésus à travers cette parabole. Maintenant, je vais vous parler d'un autre personnage qui illustre bien « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Nous allons ouvrir maintenant notre Bible dans Jean, au chapitre 13. Et nous allons simplement lire ce petit passage, chapitre 13, verset 36, et après nous ferons Matthieu, chapitre 26. Mais commençons par Jean. Alors, Jean, Évangile, chapitre 13, verset 36. Ce personnage, nous le connaissons bien. Il s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Écoutez bien. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Première lecture. Nous revenons maintenant dans Matthieu, ou nous allons dans Matthieu plutôt, verset 26, je vous ai dit il y a un instant. Alors, ce verset 26, nous retrouvons Pierre, naturellement, et au verset 36, et on va faire, là, eh bien, ce rapprochement entre les deux textes. Verset 33, Matthieu 26, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit à Jésus, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, écoutez bien la réponse, « Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors là, nous avons encore une autre chose à considérer. Si nous devions expliquer ces deux textes, et connaissant le caractère impétueux de Pierre, toujours le premier, eh bien nous pourrions dire que nous sommes en face de l'illusion de la suffisance humaine. Comprenez ? La suffisance, qui veut dire et qui pourrait se traduire par ces mots « je suis capable ». Or, l'apôtre Paul nous dit ceci, que notre capacité vient de Dieu. Qui peut être suffisant pour ces choses quand on le sert, le Seigneur ? Et là, nous voyons Pierre, comme à son habitude, parce que c'est son tempérament, qui est toujours en train de faire des proclamations véhémentes, qui fait des promesses, qui est capable de dire « je donnerai ma main à couper ». Vous connaissez l'expression ? Bah dites donc, à chaque fois qu'on dit ça, il y en a que deux mains. Hein. Je peux vous dire qu'on serait tous des manchots, hein. Très rapidement. « Je donnerai ma tête à couper ». Heureusement qu'on a aboli la peine de mort par la guillotine. Ah là là. Bon. Alors, l'illusion de la suffisance humaine. Seigneur, je te suivrai partout où il ira. Bon, très bien. Parce qu'il s'agit de la bonne volonté. Et moi, je sais que les uns et les autres qui sommes là ce matin, je vous vois, je vous regarde, et je sais que vous avez une bonne volonté pour le Seigneur. C'est pas vrai ? Celui qui n'en a pas, levez la main. personne ne va le faire. Parce que c'est vraiment quand même. Parce que vous aimez le Seigneur. On l'a entendu à travers les chants, à travers la louange, à travers l'adoration il y a un instant. Mais bien sûr qu'on aime le Seigneur. Et Pierre était un homme qui aimait le Seigneur. Mais qui ne savait pas trop ce que voulait dire aimer. On va le voir d'ici quelques instants. La bonne volonté. Mais dans tout cela, il y a un prix à payer. Vous savez que rien n'est gratuit dans ce monde. Il faut toujours payer. Si je peux me permettre de vous dire un petit conseil, quand on vous dit, vous savez, il y a publicité commerciale et tout ça, enfin bon, c'est gratuit, méfiez-vous donc. Il y a toujours un retour à un moment donné. On connaît des gens qui, avec quelquefois une annonce téléphonique en disant « voilà, nous avons une bonne proposition pour vous, etc. Alors venez chercher votre petit cadeau. » Et nous avons connu des gens qui ont été chercher le petit cadeau. Petit cadeau! Et ils sont sortis avec un salon en cuir. Petit cadeau. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? On va passer là-dessus, on va pas s'étendre. Et c'est intéressant de voir comment les choses se passent quand... nous avons cette parole. Quand Jésus parle de sa mort, et Pierre lui dit, mais moi je veux aller où tu vas? Mais il savait pas où Jésus allait, ça c'est sûr. Et Jésus va reprendre Pierre, il va lui dire, mais Pierre, tu me suivras plus tard. Oh oui, on va le revoir, parce que selon ce que nous dit la Bible, il a suivi Jésus plus tard. Oh, beaucoup plus tard, certainement. Parce que quand on sait que Jésus a été crucifié, et que selon ce que nous dit quelques pensées de la Bible, que Pierre aurait été crucifié la tête à l'envers. Oui, tu me suivras plus tard. Alors, faut pas être pressé, hein. C'est pas la peine d'aller plus vite, hein. Et nous voyons que Pierre, avec véhémence, dira, mais Seigneur, il n'est pas question, moi, je ne te renierai jamais. Il va faire des imprécations, il va jurer sur ses grands chevaux, comme on dit. Voilà, moi je ne te renierai jamais. Et on l'a par exemple dans ce passage, quand nous avons là dans, je crois que c'est dans Matthieu, que je retrouve tout simplement le petit passage qui nous est donné. Voilà, attendez, que je retrouve les choses. Matthieu 26, j'y suis bien, et c'est le verset 33. Alors, j'ai tout perdu, hein, mais c'est pas grave, si, ça y est. Quand il est dit, mais Jésus lui dit, mais en vérité, cette nuit même, tu me renieras. Et Pierre d'affirmer, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Vous vous rendez compte? Ces affirmations téméraires, parce que là, c'est véritablement téméraire. Je viens croire qu'il y avait une grande émotion dans le cœur de Pierre, parce que Pierre aimait Jésus. Et il se dit, mais toi, si tu pars, mais moi, je vais partir avec toi, parce que que me servirait-il, finalement, si tu n'es plus là? Alors, il faut savoir que Jésus doit mourir puisqu'il l'a annoncé à ses disciples. Et pour Pierre, Jésus doit mourir pour Pierre comme pour tous les autres, mais pour Pierre à ce moment-là, pour que Pierre, plus tard, meure pour Jésus. Comprenez la signification de ma phrase? Oui. Il a fallu que Jésus meure pour nous, pour que nous, ensuite, dans notre vie, nous mourions, mais peut-être pas de la même manière, que nous mourions à nous-mêmes. Que nous mourions et que nous renoncions, finalement, à nous charger de sa croix et à prendre son chemin. Autrement, ça ne signifierait rien. S'il n'y avait pas eu la crucifixion de Jésus, s'il n'y avait pas eu la crucifixion et la résurrection comme espérance là où nous allons, eh bien, ça ne servirait à rien de servir Dieu. Et de nous engager pour Jésus. De rendre témoignage. Parce que ce serait une nouvelle qui n'aurait pas de sens, qui n'aurait pas de suite. C'est parce que nous croyons en quelqu'un qui est mort pour nous et qui est ressuscité, ce qui nous donne, eh bien là, quelque part, la raison de nous engager, de nous consacrer et de vivre pour lui. C'est cela la signification que nous pouvons donner, mourir pour Jésus en tant que disciple. Et c'est le secret d'une consécration réussie et qui portera ses fruits, c'est-à-dire mourir à soi-même. On va pas tous passer par la croix, hein, ça ne se fait plus. Hein. On peut être persécuté à un moment ou à un autre, comme cela a été dans les temps anciens, comme ça peut revenir dans les temps futurs, on ne sait pas. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut être déterminé à mettre Jésus en premier, que notre cœur soit complètement, totalement, parfaitement à lui. Et ça, il faut pas moins d'une vie, hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a des fluctuations, qu'est-ce qu'il y a des paroles que nous prononçons, des vœux que nous faisons, et que quelque part, eh bien, ils n'aboutissent pas. Parce que on a vraiment besoin d'être préparé à tout cela. Alors, on va continuer. Dans Jean chapitre 21, et au verset 15, nous allons maintenant, eh bien, lire un autre passage qui est, me semble-t-il, évident sur l'engagement, et nous allons rentrer dans une nouvelle dimension de la consécration, que j'appellerai la nature véritable de notre engagement. Pourquoi nous suivons Jésus? Pourquoi nous avons répondu à son appel? Pourquoi nous désirons, eh bien, lui obéir? Pourquoi nous voulons véritablement rentrer peut-être dans un engagement plus profond de donner notre vie? La véritable nature de notre engagement, Jean chapitre 21, verset 15. Écoutez bien ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, toujours lui, Simon, fils de Josas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, voilà, occupe-toi de mon peuple. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Josas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé, figurez-vous. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, et tu sais, tu connais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis quand tu étais jeune, Pierre. Tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Nous avons là encore une autre notion de l'engagement, de la disponibilité de l'homme, de sa bonne volonté, mais où il va y avoir, en quelque sorte, un changement profond dans la vie de Pierre. Pierre, c'est un homme entier, c'est un impulsif, c'est un homme qui, là, est prêt à courir le monde entier pour, quelque part, faire la volonté de Dieu, même s'il l'a fait d'une manière sentimentale, émotionnelle, etc. Mais là, il va rentrer dans une autre dimension, parce que il va être soumis à trois questions qui semblent être les mêmes, mais où il y a à chaque fois une grande différence que nous avons, nous, besoin d'apprendre. Parce que c'est essentiel d'apprendre cela, nature véritable de l'engagement, et voici les trois niveaux de l'amour à l'appel et au service de Dieu. Écoutez bien. Il y a les trois mêmes tu. Les trois m'aimes-tu. Trois échelons. Première fois, m'aimes-tu plus que ceci m'aime? Mais tu sais bien que je t'aime. Deuxième fois, Simon, oui, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et troisième fois, pour la troisième fois, encore m'aimes-tu? Et il nous est dit que Pierre a été triste à ce moment-là. Vous savez pourquoi il a été triste? Parce qu'à ce moment-là, Pierre se souvenait qu'il avait fait lui-même des imprécations, « Je te suivrai partout où tu iras. » Bon, on l'a vu. « Je ne te renierai pas. J'irai même jusqu'à donner ma vie pour toi, Seigneur. » Et là, ça lui revient, à un moment donné. Bien sûr, Pierre s'est repenti de son reniement. Il est revenu vers Jésus. Et il se retrouve face à Jésus qui va lui poser les trois questions d'amour. Et là, ça va véritablement finir Pierre d'être Pierre, un homme avec un cœur de pierre, en quelque sorte, pour devenir un cœur qui va être rempli du Saint-Esprit de Dieu et devenir l'apôtre que nous connaissons, qui va avoir en charge avec d'autres la conduite de l'Église première, de l'Église primitive. Oui, on l'a vu, Pierre n'a jamais été à Rome. Alors là, faut arrêter parce que c'est pas biblique. Mais une chose qui est certaine, c'est que Pierre est quand même dans les Écritures l'homme qui a été choisi par Dieu pour devenir véritablement un des disciples essentiels à la construction et à la fondation de l'Église chrétienne. Un homme qui avait renié, qui va être réhabilité à ce moment-là, parce qu'il s'est repenti. Sans repentance, il n'y a pas de réhabilitation, il n'y a pas de pardon, c'est pas possible. Mais lui, il l'a fait. Et nous avons là quelque chose de très intéressant dans ces trois mêmes trucs, dans ces trois mêmes tu. Trois échelons de l'amour. Et de l'amour pour Dieu. Le premier « m'aimes-tu » signifierait tout simplement cet amour charnel, dont en grec, le verbe « aimer » en grec veut dire « eros », qui a donné toutes sortes de choses, hein, naturellement, vous, hein, dans la sensualité, tout ça. C'est un amour charnel. J'aime Dieu charnellement. Je l'aime avec mes émotions. Je l'aime quand tout va bien. Je l'aime parce que je suis heureux et je veux aimer Dieu. J'aime Dieu parce que je chante de beaux cantiques. Et puis parce que finalement toutes mes conditions sont idéales pour que j'aime Dieu. Ça, c'est charnel. C'est eros en quelque sorte. C'est ça le mot grec, hein. Signification eros, tout simplement. C'est la chair, c'est la sensualité. Et puis le deuxième, m'aimes-tu, toujours en grec. Traduction du verbe aimer, c'est une autre dimension. Elle, la première, c'est celle du bas. La deuxième, c'est celle du milieu. Phileo, phileim, en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est sympathie ou amitié. Oui, Seigneur. Mais oui, Jésus, je t'aime par amitié. Je t'aime parce que tu m'es sympathique. Je t'aime parce que, finalement, eh bien là, je te respecte. C'est la deuxième dimension. Et on peut aimer Dieu d'une manière charnelle. On peut l'aimer tout simplement parce que c'est un ami. C'est bien. Ce qu'il dit, c'est formidable. Il me fait du bien, alors je l'aime parce qu'il me fait du bien. Ça, c'est la deuxième dimension. M'aimes-tu, Pierre, charnellement? Bah, tu sais que je t'aime. Deuxième fois. M'aimes-tu, Pierre? Bah, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'estime. Je t'aime bien. Comme on dit aux gens, vous savez, je vous aime bien. Moi, je vous aime bien, hein. Et la troisième dimension, c'est là où nous devons nous aimer les uns les autres. La dimension du verbe aimer en grec, traduit du grec, c'est agapé, agapéo. Et ça veut dire l'amour divin, l'amour spirituel, l'amour qui est pur, l'amour qui n'attend pas de retour. J'aime sans attendre que l'on m'aime. Et là, et cet amour-là, il va même encore plus loin puisque Jésus nous en parle. Il nous est dit, mais aimez vos ennemis. Oh là là, Seigneur, tu me demandes quelque chose de difficile. Il m'a fait du mal, il m'a critiqué, il a mis ma réputation en pièces. Et tu veux que je l'aime? Eh bien ça, cet amour-là, on n'y arrivera jamais s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie. On peut aimer charnellement, on peut aimer sympathiquement, mais agapé, alors là, c'est autre chose. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, dans les béatitudes? Aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Tous ceux qui diront du mal de... Mais continuez à les aimer, afin que vous soyez parfaits comme votre Père est parfait. Seigneur, tu me demandes quelque chose qui est impossible. Parce que tu me demandes de tendre la joue droite après avoir reçu un coup sur la gauche. Seigneur, mais c'est dur. Moi, je veux pas tendre la joue, je veux tendre mes poings, hein. Eh, ça va aller vite, hein. Non, 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 c'est pas comme ça. Pas comme ça. Il veut me prendre mon vêtement. Eh bien, Jésus dit, ben, s'il veut prendre votre vêtement, tu lui donnes aussi ta tunique. Voilà. C'est l'amour, finalement, qui est large. L'amour qui s'ouvre. L'amour que Jésus a manifesté à la croix du calvaire. Vous croyez que Jésus, il est mort pour lui? Il est mort pas pour lui, il est mort pour nous. Il est mort sans péché, il était saint, il était juste, il était parfait, Jésus. Mais il n'est pas mort pour moi, il est mort pour tout le monde entier. Il est mort pour moi, oui, mais il est mort pour le monde entier, mais pas pour lui. C'est ça la grande différence. La question aimer, obéir et servir. Première fois, je t'aime. Tantôt oui, tantôt non. Tout dépend de la météo. Alors aujourd'hui, vous pouvez aimer, Seigneur. Et si vous l'aimez selon la météo, voilà, hein. C'est ça. Je t'aime bien, Seigneur, c'est sympathique. Tu es sympathique. Et puis, alors, ce que tu dis dans la Bible, moi, je dis amen à chaque fois, hein. C'est formidable. Moi, je suis tout à fait un supporter de ce que tu dis, mais c'est pas ça. Et jusqu'à quel point je suis attaché à Jésus? Jusqu'à quel point je suis prêt à le suivre? Et non seulement à le suivre, mais vivre en le suivant. Comme lui vit, comme lui a vécu. En faisant passer sa vie avant la mienne. Eh oui, tout le dilemme est là, toute la question est là. Seigneur, alors, comme nous le chantons dans ce beau cantique, Seigneur, apprends-nous à aimer comme au ciel on aime. Parce qu'au ciel on aime. Sur la terre on hait. On peut aimer, mais on peut haïr aussi sur la terre. Mais au ciel, c'est la perfection de l'amour, hein. C'est ce qui doit nous réjouir hein, dans notre destinée éternelle. C'est que de l'autre côté, les choses seront complètement changées. Hein. Mais il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, on suit déjà Jésus. On s'imprègne de ses paroles, on s'imprègne de sa vie. Et c'est comme cela que nous pouvons vraiment vivre en suivant Jésus. Je voudrais terminer avec une petite histoire. Vous voulez bien ? Un peu d'enthousiasme quand même. Non, je détends l'atmosphère quand même, si on peut. Alors, une histoire que j'ai souvent racontée dans le groupe de jeunesse, mais je vais vous la raconter parce que on est toujours jeune de cœur. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui, naturellement, a vieilli, hein, ça c'est tout à fait normal, et il était pasteur, figurez-vous. Et il a eu, cet homme, un très très long ministère, là, dans toutes sortes hein, de dimensions, d'évangélisation, d'enseignement de l'Église, voilà. Un très très long ministère. Et un jour, il raconte comment il a répondu à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a toujours un moment, un déclencheur dans notre vie. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui un jour nous a rendu témoignage et qui nous a amené à Jésus, qui nous a parlé de Jésus et nous avons cru en Jésus. Mais quelquefois, ce n'est pas seulement sauvé pour simplement aller au ciel, parce que nous savons que nous allons y aller. Mais quelquefois, Dieu nous appelle parce que nous avons un rôle à jouer dans l'Église. Parce que nous ne sommes pas là les bras ballants et puis en attendant le retour de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Vous savez ça ? Il y a déjà parmi nous, hein, pratiquement l'Église travaille, mais Dieu nous appelle encore à peut-être affiner notre ministère et à se lever et de dire « Seigneur, je vais aller encore plus loin ». Alors ce sont des ministères, ce sont des services. Et il nous raconte, cet homme, hein, ce vieux pasteur, comment il a répondu à l'appel de Dieu, et il a découvert ce qu'il fallait faire pour servir le Seigneur. Ah, quelquefois on se pose des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire ? Pasteur, non, c'est pas pour moi, je peux pas parler. Et puis d'autres diront, bien voilà, oh, si c'est pour balayer la salle, moi, non, ça m'intéresse pas. Et puis, toutes sortes de choses comme ça qui peuvent exister. Voilà. Seigneur, moi, tu vois, ça me plairait bien parce que j'ai une belle voix et je joue de la musique. Hein? Tu y penses? Si t'as besoin de personnel, hein, je suis là. Hein? Alors, bon. Et il a découvert comment faire pour servir le Seigneur. Et c'est peut-être une des préoccupations, et je souhaite que ce soit une préoccupation dans votre cœur. Cet homme, quand il était petit garçon déjà, il sentait qu'il... consacrerait sa vie à Dieu. Oui, quelquefois, on l'a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez pas, là? Ouais, oui. Moi, je le savais. Avant même de connaître le Seigneur, alors que j'étais en dehors complètement de la pensée évangélique. Mais je le savais déjà. Et alors, il avait ce désir dans son cœur de dire, moi, je veux vivre pour Dieu. Tout simplement, et je veux le servir. Mais souvent, son cœur était rempli d'incertitudes. Alors, si vous avez des incertitudes pour votre avenir, c'est tout à fait normal. Hein? Avant de savoir, eh bien, on apprend, et puis, bon, on découvre. Et on demande à Dieu, on prie Dieu pour qu'il nous donne vraiment, à un moment donné, une assurance et des certitudes. Donc, il se disait, mais quand est-ce que ça va être, Seigneur? Mais comment je vais faire? Et où tu veux me conduire? Et ceci et cela, des questions de toujours, naturellement. Alors, devant les combats intérieurs, je te précise, et les multiples impressions qui l'agitaient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes, il se rangit un beau jour dans son église, et là, il a pris, figurez-vous, une feuille de papier et un crayon. Et il se dit, voilà Seigneur, j'écris maintenant une à une toutes les promesses et tous les engagements que je te fais pour ma vie. Imaginez-vous ce petit garçon devant sa feuille blanche, son crayon, réfléchit, voilà, ceci, cela, cela, etc., etc. Il est en train d'écrire. Parce que c'est pour lui l'expression, finalement, son expression de dire, Seigneur, je t'aime et je veux te servir, je veux me consacrer à toi. Et tout ce qui lui a passé par la tête, il le nota naturellement sur cette page. Et il continue à écrire naturellement. À ce moment-là, lorsqu'il a fini cette première partie, il s'est engagé à tenir maintes et maintes résolutions. Seigneur, je lirai ma Bible tous les jours. Seigneur, je prierai. Seigneur, je viendrai aux réunions. Et il a pris ses résolutions. Seigneur, je te donnerai mes petites économies. Voilà, bonne volonté. Assurément, c'est très beau comme cela. Hein? Et au fur et à mesure, la liste était très longue et notre garçon avait bien l'intention de tenir ses serments jusqu'au bout. Vous savez, le cœur d'un enfant, hein, il est sincère. Hein? Il n'y a pas d'ambiguïté chez un enfant. Hein? Surtout quand ce qui concerne Dieu. Il fait des promesses quelquefois au Seigneur, comme ça nous est arrivé, et de dire, mais Seigneur, tu sais, Moi, je veux vraiment être droit devant toi. Je veux être bien devant toi. Et je veux faire des bonnes choses pour toi, tout simplement. Ça, c'est une perception que nous avons. Alors, il avait cette intention donc de tenir ses serments jusqu'à la fin de sa vie. Alors, quand il eut terminé cette écriture d'écrire, à ce moment-là, il a ajouté ce qu'il faut ajouter, il s'est mis à prier. Et il a prié avec ferveur, il a prié avec des larmes, et à ce moment précis, il s'attendait à recevoir, eh bien tout simplement à travers des éclairs et du tonnerre, l'approbation du ciel. Seigneur, tu me donnes la confirmation que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et tu vas, eh bien là, m'éclairer, parce que moi j'ai fait cette démarche, mais toi tu vas me répondre des cieux. Il s'imaginait pouvoir ressentir que Dieu était très content de lui. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que Dieu est content de vous? Vous ne voulez pas demander, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu sais, moi je n'ai ni tué ni volé, hein, je te donne la dîme de ceci et cela, mais je ne suis pas comme le... Non, j'arrête. Vous connaissez la suite? Bon, non. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu dois être content de moi. Et il s'attendait à recevoir sur le champ un ordre de mission. Tu vas aller en Afrique, tu vas aller en Asie, c'est maintenant de partir. Tu as 9 ans, mais tu vas y aller quand même. Hein. Voilà. La simplicité, l'innocence d'un enfant. Et il s'attendait à recevoir, parce qu'il connaissait un peu la Bible, il s'imaginait, et voire peut-être même qu'il rêvait, eh bien, un ordre de mission comme Paul sur le chemin de Damas. Figurez-vous, c'est quand même quelque chose, hein, tout simplement. Mais rien ne se produisit à ce moment-là. Silence radio, enfin, silence total. Rien ne s'est produit. Alors, dans l'église, tout resta silencieux et notre garçon fut ce jour-là, très déçu. Il dit, Seigneur, je t'ai prié. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai cru devoir faire. J'ai écrit, tu sais, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu sais lire d'abord? Le Seigneur sait lire. Hein. Et vous savez qu'il est polyglotte, le Seigneur? Il parle toutes les langues. Voilà. Alors, il a été très déçu. Et il avait vraiment... Il était malheureux. Hein. Alors, il y a quelque chose qui lui est venu à l'esprit. Il a pensé alors, à ce moment-là, qu'il avait oublié quelque chose sur sa liste. Ah oui, il y a ceci que je n'ai pas dit. C'est peut-être pour ça que le Seigneur n'a pas répondu. Alors, il a repris son crayon rapidement, et il a ajouté, et il a ajouté, et il a ajouté encore. C'était des pages et des pages hein, qu'il avait devant lui. Et il s'est mis à prier de nouveau, et rien ne se passa. C'est décevant hein, d'être écrivain et que personne vous lit. Hein. Ouais. Et rien ne s'est passé à ce moment-là. Et comme il était très triste, notre jeune garçon, il réfléchissait, et à ce moment-là, il a ressenti quelque chose dans son cœur, comme quelque chose qui venait, simplement, naturellement, que Dieu lui disait ceci. Tu te trompes. C'est pas comme ça. Tu te trompes. Je ne veux pas un engagement comme celui-là. Moi, je te demande de déchirer ton papier et de le jeter. Alors le garçon a obéi à ce moment-là. Il a pris son papier, ses papiers, il les a coupés en petits morceaux et les a jetés. Alors la paix de Dieu est venue dans son cœur, où il entendait ces paroles, inaudibles, mais paroles bien entendues quand même. Maintenant, reprends une feuille toute blanche et mets simplement ton nom, ta signature, en bas de la page, et moi, Dieu. Tu me laisses faire, tu me laisses le soin de la remplir entièrement. Comprenez ce que ça veut dire? Que c'est pas à nous de faire les programmes. Que c'est pas à nous de dire Seigneur ce que tu dois faire pour moi. Ou ce que tu veux faire avec moi. Ce que tu entends faire pour m'utiliser. Tu mets simplement ton nom en bas de la page, tu vois? Alain, Pierre, Jeanne, tout ce que vous voulez, hein. Tu mets, et moi c'est moi qui vais remplir le reste. Moi, je trouve que c'est très beau, ça. Ça, je trouve que c'est beau, hein. Je raconte quand même de belles histoires de temps en temps, hein. Mais je ne fais pas d'histoire. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Beaucoup plus tard, parce que j'ai pas fini, attendez, hein. Faut pas partir, hein. Beaucoup plus tard, ce jeune homme dont nous parlons devint un fameux serviteur de Dieu très connu. Mais heureusement que le programme de sa vie ne lui avait pas été dévoilé avant. ne lui avait pas été dévoilée à l'avance, parce que promesse, résolution, vœu, intention, serment, il n'y a que Dieu qui les connaissait et qui nous les révèle jamais avant le moment où il faut. Et c'est au fur et à mesure de notre vie, aujourd'hui pour nous, demain, certainement, que le Seigneur les a écrits sur la feuille blanche, la feuille de route de la vie de cet homme. Écoutez, je termine maintenant, à travers deux textes tout simples. Dans le psaume 32, vous le connaissez, c'est un psaume de David, écoutez bien cette parole. « Je t'instruirai, nous dit Dieu. » Oui, chacun d'entre nous ce matin, vous êtes venus, vous avez écouté. Et Dieu te dit, Dieu vous dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Donc on n'est pas seul. La feuille blanche, mais c'est le Seigneur qui va l'écrire. Moi j'ai simplement mis mon nom au bas de cette feuille blanche et c'est lui qui va compléter, c'est lui qui va faire au fur et à mesure. Et permettez-moi un autre texte qui m'est cher à mon cœur parce que il fait partie finalement en quelque sorte de mon appel au ministère. Alors que, vous savez, je me suis converti à Amsterdam. Et à travers une situation qui était quand même inattendue, extraordinaire, et pleine de péripéties, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien qu'il y ait depuis tout petit certainement un appel de Dieu, mais bon, étant dans la religion de mes parents, moi pour moi c'était quelque chose de très étrange tout ça. Et je me souviens dans les moments où j'étais vraiment pas bien au moment de ma conversion. Parce qu'on n'est pas toujours très bien au moment de la conversion. Hein. Ça, ouf, ça vous entrechoque de tous les côtés. C'est vrai. Il y a eu cette parole qui m'est venue alors que j'étais au désespoir. Je vivais quelque chose de très très difficile. Et c'est là où il y a eu confirmation de l'appel de Dieu d'abord pour me convertir et ensuite pour devenir ce que nous sommes devenus, Myriam et moi. Écoutez, dans Proverbes chapitre 16, verset 1er, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Et j'en avais des projets. Oh, ça c'est certain que j'en avais des projets. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Entre ce que moi j'avais pensé en remplissant ma feuille blanche et ce que réellement a été ma vie, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, la manière dont nous avons été conduits à obéir ou être rendus capables d'obéir à Dieu, de le servir, parce que c'était pas du tout ce que je pouvais m'imaginer. Et dans ce même proverbe, il est dit, je relis, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Et c'est à Dieu qui revient finalement de nous conduire et de nous diriger. » Et puis au verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Oui, Seigneur. J'en ai encore, en quelque sorte, eh bien, comme un frisson lorsque je lis ces paroles, parce que c'est exactement... Oui, nous méditons notre foi, mais c'est à Dieu qui conduit, c'est lui qui nous conduit, qui conduit nos pas, comme il l'a résolu. Moi, je voudrais que ce message ce matin soit peut-être un renouvellement de consécration et un renouvellement dans votre vie spirituelle au service de Dieu, à aimer le Seigneur, mais inutile d'échafauder des plans et toutes sortes de choses. Le meilleur, c'est pas ce que nous pensons, le meilleur, c'est ce que Dieu pense pour nous et ce que Dieu veut nous conduire. Alors moi, je vous exhorte, parce que ça sera toujours quelque chose de formidable, et on marche en suivant le Seigneur, et il nous fait découvrir des choses extraordinaires et merveilleuses. Et jusqu'à ce moment, ça fait 42 ans que nous connaissons le Seigneur, nous nous sommes convertis jeunes, et nous avons été appelés, saisis par le Seigneur, et je peux vous dire, et si je peux confesser, et c'est un encouragement pour ceux qui commencent, pour ceux qui veulent débuter, pour ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, et ceux qui sont en cours de route, ne vous découragez pas. Parce que une chose qui est certaine, c'est que nous, pour nous personnellement, nous n'avons jamais, jamais, au grand jamais, regretté d'avoir mis le Seigneur Jésus devant nous et de le suivre. Ça a toujours été une bénédiction, une joie et un bonheur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que je peux confesser ce matin que tu as été merveilleux comme pour moi. Tu as été en quelque sorte comme ce vieux pasteur qui arrivé au fin de la vie avait compris que ce n'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui pouvons dire, eh bien, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que nous ne savons pas si nous t'aimons vraiment. Mais tu nous apprends tout le long de notre vie à t'aimer. Tu nous apprends, Seigneur, à être fidèles. Tu nous apprends, Seigneur, surtout à ne pas multiplier des paroles en disant « je ferai ceci, je ferai cela, j'irai ici ou j'irai là ». Mais Seigneur, lorsque j'ai bien compris que ma vie c'est une feuille blanche, et j'ai juste, Seigneur, à y apposer mon nom, ma signature, alors à ce moment-là tu fais le reste. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, de les bénir, de les réjouir de ce qu'ils sont appelés par Dieu, de ce qu'ils ont été choisis par Dieu, de ce qu'ils sont des élus de Dieu, et de ce que tu les as établis, et de ce que tu veux les établir encore pour qu'ils portent du fruit pour la gloire de Dieu et son royaume. Merci Jésus, merci mon merveilleux Père, merci mon Seigneur, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.